Alors, bonjour. J'invite à entrer, à prendre place. On va commencer. Ce matin, on commence une nouvelle session de cours. Et je vous inviterai pour commencer ce matin à tourner dans le psaume 111. Le psaume 111. J'aime commencer avec un passage biblique et méditer sur un passage, même si on voit plusieurs passages dans les leçons. J'aime lire un passage qui va être un peu en lien avec ce qu'on va voir ce matin. Et le psaume 111, je vais lire à partir du le psaume au complet, donc à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. On voit dans ce psaume-là combien on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est digne de recevoir la louange et la gloire. Au verset 1, le psalmiste commence en disant « Louez l'Éternel », invite les gens à louer l'Éternel avec lui, et il dit qu'il veut louer l'Éternel de tout son cœur. À travers le psaume, on voit aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut louer Dieu, pour lesquelles on voudrait désirer de tout notre cœur louer notre Dieu. Parce que ses œuvres sont grandes. Dieu a manifesté des œuvres qui sont grandes. Le psalmiste mentionne 5 caractéristiques des œuvres de l'Éternel. Elles sont grandes. Au verset 2, au verset 3, il dit qu'elles sont magnifiques. Elles sont éternelles. Au verset 4, elles sont fidèles et justes. Ses œuvres sont fidélité et justice. Verset 7. À cause de la grandeur de Dieu, on veut le louer. Mais le Seigneur a manifesté aussi ses œuvres en établissant une alliance avec son peuple, une alliance où il a manifesté la grandeur de sa miséricorde et de sa compassion. Il a même apporté la délivrance à son peuple. Et à travers tout ça, Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de manifester qui il est à travers son alliance avec son peuple. Il manifeste sa grandeur, manifeste sa compassion. Et le psalmiste, il dit que ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent, recherchent à comprendre ses œuvres, recherchent à le comprendre lui. Et il termine en disant « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Et si on est rassemblés ensemble ce matin, c'est parce qu'on veut grandir dans notre sagesse et on veut apprendre ensemble à craindre notre Dieu. Même si ça fait plusieurs années qu'on est chrétien ou qu'on marche avec le Seigneur, on a toujours besoin de grandir dans notre connaissance de Dieu. On a besoin d'appliquer nos cœurs à le connaître. On a besoin d'appliquer nos cœurs à contempler sa gloire à travers ses œuvres. Et ce matin, on commence un cours de théologie, un survol des doctrines essentielles. Et on va voir ensemble que la théologie, en fait, c'est l'étude de la personne de Dieu et de ses œuvres. Et c'est pour ça que j'ai pris ce passage-là ce matin, parce que ce matin, on veut entrer dans ce cours, pas simplement pour meubler nos pensées, notre connaissance à propos de Dieu, mais plutôt nourrir notre relation avec Dieu, en apprenant à le connaître, en apprenant à marcher avec lui. Et je vais vous inviter à vous courber avec moi, on va dire un mot de prière, et puis après ça, on va plonger un peu plus dans la matière de ce matin. On va prier que Dieu nous conduise ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer. Seigneur, ce matin, je veux te louer de tout mon cœur. Parce que tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont merveilleuses. Elle révèle combien tu es majestueux, combien tu es grand. Elle révèle aussi ta compassion, ton amour envers ton peuple. Et Seigneur, si tu avais établi ton alliance avec Israël par le passé, en Jésus-Christ, tu as établi une nouvelle alliance avec un peuple composé de toutes les nations, un peuple que tu es en train d'appeler à toi. Et Seigneur, un jour, tu nous as appelés à toi. On a entendu l'évangile de Jésus-Christ qui nous a touché notre cœur, qui nous a fait voir l'état de pécheur dans lequel nous étions, séparés de toi. Et combien dans ton amour tu avais tout accompli pour qu'on puisse être réconcilié avec toi en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut contempler ta grandeur, on veut contempler tes œuvres. À travers ce cours, Seigneur, pendant toute cette session, on veut apprendre à te connaître, toi, afin de pouvoir te glorifier davantage, afin de pouvoir vivre pour toi. Seigneur, viens nous conduire ce matin, viens nous illuminer par ton esprit, afin qu'on puisse comprendre davantage combien tu es merveilleux et que cela puisse transformer nos vies pour toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je disais, ce matin, on commence notre cours des survols des doctrines essentielles, un cours de théologie. Et lorsqu'on parle de... on emploie ce mot-là dans l'Église, le mot théologie, puis qu'on se met à parler de théologie, les gens, souvent, les chrétiens peuvent avoir plusieurs réactions face à ce mot-là. Pour certains, c'est... théologie, wow, là, ça c'est pour les calés, ça c'est pour ceux qui veulent pousser un peu plus, là. C'est pour les intellectuels, ça. Moi, la théologie, là, c'est trop poussé. Quand on embarque là-dedans, moi ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus pratique. Moi, j'aime mieux être en train d'évangéliser, en train de lire ma Bible, de faire mon culte personnel. Moi, je suis pratique dans ma vie chrétienne. Fait que la théologie, j'embarque pas trop là-dedans. Il y en a d'autres qui sont passionnés des grandes questions sur Dieu, se mettent à jour avec les débats, des derniers débats dans le monde évangélique. Ils lisent les blogs sur Gospel Coalition, les Together for the Gospel, ils écoutent les théologiens en ligne et puis se tiennent à jour. Et ils veulent être certains là, qu'eux là, comprennent bien la parole de Dieu, sont à l'affût, dire s'il y a une erreur dans l'Église, moi je vais être là pour défendre la saine doctrine. Et puis, ils ont un penchant plus vers la théologie, puis un petit peu moins vers la pratique. Mais c'est une réaction, c'est deux extrêmes, si je peux dire. Mais je pense que le Seigneur nous appelle à trouver un juste milieu dans tout ça. Sans trop pousser tout le côté juste pratique, sans avoir une pratique qui est informée par la parole de Dieu, informée par une saine doctrine. On veut apprendre à grandir dans notre compréhension de Dieu. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique? Puis d'un autre côté, on ne veut pas juste savoir participer à des débats théologiques pour participer à des débats théologiques. On veut que notre théologie ait un impact sur notre vie chrétienne. Fait que la théologie est importante. Puis on va voir pourquoi. La pratique est importante, mais les deux vont ensemble. On ne les sépare pas. La théologie influence notre pratique de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'avoir un cours de survol des doctrines essentielles, parce qu'on veut apprendre à connaître Dieu. Puis connaître Dieu selon les Écritures, ce n'est pas connaître Dieu juste intellectuellement. J'en ai parlé la semaine passée dans la prédication, mais ça a un impact sur notre vie. Alors, ce matin, on commence une étude de la théologie, mais plus particulièrement, plus spécifiquement, on appelle ça, le terme qu'on utilise pour ce qu'on va faire ensemble, c'est de la théologie systématique. Et là, j'emploie des grands termes, puis je vais prendre le temps de tout expliquer ça. Je ne veux pas vous faire peur avec mes grands termes ce matin. La théologie systématique, je vais exprimer un peu plus. On va définir c'est quoi. Et c'est pour ça que ce matin, je prends le temps d'introduire avec vous ce qu'on va faire ensemble. Lorsqu'on parle de doctrine essentielle, on est en train de faire de la théologie systématique. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement pour pouvoir mieux comprendre la démarche qu'on fait lorsqu'on étudie les grandes doctrines. Et lorsqu'on commence ça, on a besoin de répondre à certaines questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Deuxièmement, c'est pourquoi on doit étudier la théologie systématique. Et finalement, on va voir ensemble comment on fait de la théologie systématique, comment on étudie la théologie. Donc, on va commencer ensemble avec, premièrement, définir qu'est-ce que c'est la théologie systématique. Ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Premièrement, le mot théologie, lorsqu'on étudie le terme théologie, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il est formé de deux mots grecs. Théos, qui veut dire Dieu, OK? Déjà, il y en a qui connaissent un petit peu de grec. Théos veut dire Dieu. Et le terme logos, qui veut dire raison, connaissance, ou même on pourrait dire science. Et lorsqu'on prend les deux termes ensemble, théos et logos, et qu'on traduit ça en français, on a théologie. Et dans sa plus simple expression, la théologie, c'est la science sur Dieu. Comme la psychologie, c'est la science de l'âme ou de la personne, de l'être humain. L'être humain, c'est plus l'anthropologie. Lorsqu'on voit toutes les logies, ça veut dire que c'est la science de liée à quelque chose. Donc, la théologie, c'est la science qui est liée à Dieu, à la personne de Dieu. Mais lorsqu'on parle de théologie systématique, on parle d'une branche un petit peu plus précise dans la théologie, et c'est une théologie qui cherche à ordonner de façon systématique, à ordonner les grands enseignements sur la personne de Dieu, ou c'est ce qui nous révèle dans les Écritures. Elle cherche à ordonner de façon logique et systématique ce qui concerne la connaissance de Dieu, puis à formuler les principaux enseignements tirés des Écritures pour notre culture dans un contexte précis. Le professeur Wayne Grudem définit la théologie systématique de la façon suivante. Il dit « La théologie systématique est en fait toute étude qui répond à la question suivante. Qu'est-ce que toute la Bible dit sur tel ou tel sujet? » Je peux avoir une question dans à mon esprit. On va en voir quelques-unes des questions que la théologie systématique peut adresser. Par exemple, que signifie la résurrection de Jésus-Christ pour le croyant? Ça, c'est une question théologique. Comment les Écritures ont-elles été inspirées? On pose une question. Les Écritures, après ça, la théologie systématique va chercher à travers l'ensemble des Écritures à résumer ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Comment l'inspiration des Écritures est arrivée? Et là, on fouille à travers les passages bibliques et on arrive à une réponse. Donc, la théologie systématique cherche à adresser une question précise dans un contexte précis, dans notre culture, à la formuler une réponse. Donc, qu'est-ce que toute la Bible dit sur tel ou tel sujet? On a donné la définition de Wayne Grudem, mais il y a le professeur John Frame qui ajoute avec justesse à cette définition-là en spécifiant que cette discipline cherche d'abord à appliquer les Écritures. On ne cherche pas seulement à répondre à une question sur qu'est-ce que la Bible dit sur tel ou tel sujet, mais on cherche aussi à l'appliquer. Il a défini comme ça. La théologie systématique cherche à appliquer l'Écriture en demandant ce que toute la Bible enseigne sur n'importe quel sujet. Donc, encore une fois, on cherche à comprendre ce que la Bible dit sur un sujet, mais ce qui est mis en priorité, c'est cherche à appliquer les Écritures. Donc, ce n'est pas seulement avoir une connaissance, mais comment ça s'applique, quel impact que ça, cette réponse-là qu'on donne à une question, quel impact ça a pour ma vie? Comment je peux l'appliquer dans ma vie? Alors donc, on voit que la théologie systématique, c'est répondre à des questions sur ce que toute la Bible dit sur tel ou tel sujet. Elle va se distinguer de différents types de théologie. On parle aussi de théologie biblique, théologie historique, la théologie pratique. Donc, la théologie systématique se distingue de la théologie biblique. La théologie biblique, c'est chercher à exposer ce qu'un auteur en particulier va dire sur un sujet. Je pourrais poser la question, comment Paul définit la justification dans Romains? Là, je suis en train de faire de la théologie biblique, en train d'essayer de répondre à une question précise sur ce qu'un auteur a dit ou sur ce qu'une portion des Écritures dit sur un sujet. Comment les, qu'est-ce que les proverbes disent sur la gestion des finances? Ça, c'est une théologie biblique. Je suis plus proche des Écritures. Je ne cherche pas à répondre à une grande question avec l'ensemble des Écritures, mais chercher à comprendre ce qu'un auteur particulier va dire. Ça, on appelle ça la théologie biblique. Il y a un autre type de théologie qu'on appelle la théologie historique. Et comme son nom l'indique, historique, ça a un lien avec l'histoire. Et donc, la théologie historique, elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est dire, à telle époque dans l'histoire de l'Église, à l'époque des pères de l'Église, les deux, trois premiers siècles, par exemple, comment les pères de l'Église ont défendu la divinité de Jésus-Christ? C'était quoi leur réponse? Et là, on cherche, à partir de... Ils ont construit une théologie à travers des, je pourrais dire, des confrontations ou des discussions qu'il y avait sur un sujet en particulier. Et là, ils ont formulé une réponse. Alors, qu'est-ce que les pères de l'Église disaient sur la divinité de Jésus-Christ? Ou encore, qu'est-ce que Martin Luther croyait sur la présence de Jésus dans le repas du Seigneur? On sait que l'Église catholique croyait qu'à la transsubstantiation, un grand mot pour dire que lorsqu'on célébrait le repas du Seigneur, le pain était élevé dans les airs, on rendait grâce et à travers cette action-là, qu'est-ce qui se passait? Le pain était transformé dans le corps de Christ. Et on avait Jésus qui était présent dans le pain et lorsqu'on prenait le pain, on mangeait le corps de Christ littéralement parce qu'il avait été transformé dans le corps de Christ. Et là, Martin Luther, lui, a changé un peu cette vision-là. Et comment, lui, il a formulé sa vision de la présence de Jésus dans le repas du Seigneur? Comment Calvin a vu ça? On fait de la théologie historique. On cherche à comprendre comment un tel théologien ou un autre a compris une question. Et finalement, il y a la théologie pratique. Ça, c'est vraiment la théologie appliquée. On cherche à appliquer la théologie dans la vie de l'Église ou dans la vie personnelle. Dans la théologie appliquée, on parle d'évangélisation. Lorsqu'on fait de l'évangélisation, on fait de la théologie appliquée. Qu'est-ce que je dois dire lorsque je veux annoncer le salut à quelqu'un? Avec toute ma théologie, là, qu'est-ce qui doit être communiqué lorsque j'annonce l'Évangile? Ou encore une fois, appliquer la théologie, c'est la théologie appliquée, c'est dans la relation d'aide biblique. Comment surmonter la lutte avec certains péchés? Lorsque quelqu'un lutte avec un péché, comment je dois l'encourager avec les Écritures pour surmonter sa lutte avec le péché? Qu'est-ce que la Bible me dit sur ce sujet-là très pratique? Et on a plein de questions pratiques. On a des questions d'éthique aussi. Est-ce qu'une pratique de fécondation est en accord avec les Écritures? Là, on a aussi les soins de fin de vie qu'on a commencé à introduire de plus en plus au Québec. Quelles sont les limites des soins qu'on doit apporter en fin de vie? Ça, c'est une question d'éthique. Selon les Écritures, comment je peux appliquer des soins de fin de vie pour que ça soit conforme aux Écritures? Là, on parle de théologie appliquée. Mais la théologie systématique, elle cherche à se distinguer de ces autres théologies-là en cherchant à répondre à une question précise qui, ultimement, va être appliquée. Mais c'est elle qui informe la théologie pratique. Ma réponse à ma question va avoir un impact dans ma vie. Mais ma théologie systématique va être informée de quoi? Des Écritures, de ma théologie biblique. Elle va peut-être même consulter aussi dans l'histoire de l'Église comment ça a été compris pour que finalement je puisse formuler une réponse à mon contexte. Donc, tout ça un peu juste pour vous expliquer puis distinguer la théologie systématique. Mais on va voir ensemble maintenant le but. Les buts plus particuliers de la théologie systématique. Premièrement, elle va chercher, comme j'ai dit, à répondre aux questions contemporaines qui sont soulevées par les gens concernant Dieu et son rapport avec la création. Il y a plein de questions qui peuvent être soulevées, je vous en nomme quelques-unes. Est-ce qu'il est possible de connaître Dieu? Ça, c'est une question qui peut être soulevée dans notre culture. Dieu est là. Est-ce que Dieu existe? Comment la Bible me dit, qu'est-ce que la Bible me dit à propos de Dieu? Et comment je peux le connaître? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la Bible est fiable? Question que la culture peut nous poser et qu'on peut répondre à partir des Écritures. La semaine prochaine, ça va être notre frère Basile qui va enseigner. Il va répondre à une de ces questions-là. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la Bible est fiable? On va parler des Écritures. Comment le monde est venu à l'existence? Des questions posées dans notre culture. Ils ont des réponses aussi. La théorie de l'évolution, qu'est-ce que la Bible dit? Elle vient informer la question de l'origine de l'homme. Toutes sortes de questions comme ça. Comme une importante. Était-il absolument nécessaire que Jésus-Christ meure sur la croix? Une bonne question. Ça prenait-tu absolument ça pour qu'on puisse être sauvé? La théologie systématique cherche à répondre à ce genre de questions-là. Donc, le but, c'est de répondre à des questions contemporaines. Le but de la théologie, c'est de proposer aussi un sommaire des doctrines. C'est une discipline aussi qui vise l'application, comme je l'ai déjà mentionné. Les principaux enseignements de la Bible, les doctrines essentielles ont un impact, doivent avoir des implications pour nos vies. Et comme elles viennent de la parole de Dieu, lorsque notre théologie est informée par la parole de Dieu, ça demande aussi qu'on se soumette à nos réponses, parce qu'elles viennent de la parole de Dieu. Oui. Contemporain, ça veut dire de notre temps. OK? Aujourd'hui. OK? Notre époque aujourd'hui, en 2011, 2018. J'étais encore loin, là. Oui, oui. J'ai perdu une couple d'années, là. J'étais parti, là. J'ai rien à revenir. Oui, c'est ça. 2018. Hey boy. Oh boy. Donc, la théologie nous informe. Puis elle a une incidence pratique. Le professeur Wayne Grudem, encore une fois, dit « Nulle part dans les Écritures, nous ne trouvons la doctrine étudiée pour son propre intérêt ou en isolement de la vie. Les auteurs des Écritures appliquent régulièrement leurs enseignements à la vie. » Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que la théologie a un impact. Elle a des implications pour la vie. Ce n'est pas juste une connaissance. C'est une connaissance qui demande... C'est la connaissance de Dieu qui a un impact sur la façon dont on va vivre. Une chose qui est importante de noter, c'est que je crois que tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont des théologiens. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous êtes tous des théologiens. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes nés de nouveau, vous êtes des théologiens. Si je vous pose la question... C'est quoi la destinée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ après la mort? La vie éternelle. Ah, une réponse. J'ai posé une question, il m'a fourni une réponse. C'est sa théologie systématique qui informe ça. C'est quoi la destinée de ceux qui ne connaissent pas Dieu? La mort éternelle. C'est quoi qui vous a donné ça? L'étude des Écritures qui vous a amené à formuler une réponse à ça. Donc, tous les chrétiens qui ont une idée sur un sujet que les Écritures traitent ou qui donne une réponse à des questions, sont en train de faire de la théologie. Si je pose la question, qui est Jésus? Je vous la pose. Dites-moi en une phrase, simplement, qui est Jésus? OK, j'entends plein de choses. OK, Delvais, le Sauveur. Carmen, le Fils de Dieu. D'autres choses? Dieu lui-même. Oui. Hein? D'accord, là, j'ai des réponses. Vous êtes des théologiens en train de me fournir une réponse à ma question, qui est Jésus? Donc, tous les chrétiens sont des théologiens. Parce que la théologie, c'est l'étude de Dieu, connaître Dieu. Et lorsqu'on est des chrétiens qui sommes des disciples de Jésus-Christ, on est des théologiens parce qu'on cherche à connaître Dieu. On cherche à appliquer ce qu'on apprend de la parole de Dieu dans nos vies. Donc, lorsqu'on parle de théologiens, il y en a qui sont un petit peu plus calés que d'autres. Il y en a qui font plus d'études que d'autres. Mais l'important, c'est de réaliser que lorsqu'on cherche à connaître Dieu, on est en train de faire de la théologie. Puis on est tous des théologiens, par la grâce de Dieu. On veut que Dieu nous dirige à être des bons théologiens. Qu'on soit capable d'enseigner peut-être, ou de conduire des gens à Jésus-Christ. Et lorsque je parle de l'Évangile à quelqu'un, je suis en train de lui exprimer ma foi, je suis en train de lui parler de ma théologie. Qu'est-ce que je crois que les Écritures disent sur le sujet du salut? Et lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on veut continuer de grandir dans une connaissance qui vient de la parole de Dieu. on est en train de faire de la théologie. Fait que là, en résumé, la théologie systématique, son but, elle sert à faire un résumé de l'enseignement des Écritures sur certains sujets, à répondre à des questions contemporaines en lien avec une culture particulière. Là, quand je dis avec, en lien avec une culture particulière, c'est que dans notre contexte à nous, en Amérique du Nord, au Québec, on va répondre à une question d'une certaine façon. Mais si je parle avec Basile, qui vient de l'Afrique, des démons ou des mauvais esprits, ça se peut que son articulation de sa réponse par rapport à la mienne soit différente s'il est dans le contexte africain, parce qu'eux autres vivent des choses différentes de ce que nous, on vit. Fait que la théologie systématique, elle cherche à répondre à des questions de notre époque, mais dans une culture particulière aussi. Employer des mots qui vont faire en sorte que les gens vont comprendre dans leur culture, dans leur contexte. On cherche aussi à organiser l'ensemble des enseignements de la Bible sous différents thèmes, puis elle nous aide à mettre en pratique l'enseignement des Écritures. Donc ça, c'est ce que la théologie systématique cherche à faire. Et cette session, on va voir des grands thèmes de la théologie systématique. Les grands thèmes sont, entre autres, je pense que je vous les ai indiqués, soit à l'écran, même dans les notes qui étaient disponibles à l'entrée. Si vous ne les avez pas pris, vous pouvez en prendre une copie à la fin. Premièrement, on parle de la doctrine de la parole de Dieu. Le grand mot pour ça, c'est la bibliologie. La Bible, la connaissance de la Bible, bibliologie, la doctrine de la parole de Dieu. On a la doctrine de la personne et de l'œuvre de Dieu, ce qu'on appelle la théologie propre à la personne de Dieu. La doctrine de l'humanité, l'anthropologie, la doctrine des anges et de Satan. Donc, on en parle d'angéologie. Donc, lorsqu'on parle d'angéologie, on parle de la doctrine des anges. Il y a aussi la doctrine du péché, la doctrine de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Un cours de Christologie qui va être donné à partir de la semaine prochaine avec notre frère Stéphane Rondeau va traiter seulement de cette branche-là de la théologie, la Christologie, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On a l'étude de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en grec, c'est pneuma, la pneumatologie, la doctrine du salut, la doctrine de l'Église et finalement la doctrine de la fin des temps. Et cette organisation-là de la doctrine, de la théologie, sert à progressivement comprendre le plan de Dieu. Et finalement, jusqu'où va le plan de Dieu? Donc, on voit ces grands thèmes-là, et c'est ce qu'on va étudier ensemble tout au long de la session, un thème chaque semaine. Et puis, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans chacun de ces thèmes-là. Maintenant, ça répond à la question, qu'est-ce que c'est la théologie systématique? La deuxième question qu'on a, c'est pourquoi on doit étudier la théologie? J'ai nommé quelques raisons ici, et puis on va lire un verset dans Jérémie 9, les versets 23 et 24. Jérémie dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc, c'est Dieu qui est en train de parler. « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. À quoi Dieu prend plaisir, selon ce passage-là? Oui, à exercer la bonté, le droit, la justice sur la terre, oui. Ça vient de où, ça? Ça vient de la connaissance de Dieu. Hein, dans le fond, Dieu dit, glorifie-toi pas de ton intelligence, que tu penses que tu sois sage. Glorifie-toi pas de tes richesses. Ah, moi, j'ai acquis plein de choses, des biens. J'ai une grosse cabane, deux Porsches dans le garage. Je suis capable d'aller, j'ai mon chalet dans le nord, mes passes de ski pour Mont-Tremblant pour l'hiver. Full equip. Glorifie-toi pas de ça. Glorifie-toi pas de ce que tu connais, de ton standing. S'il y a quelque chose dans lequel tu peux te glorifier, c'est de me connaître. c'est à ça que je prends plaisir. Quand tu me connais, ça a un impact sur la façon dont tu vas vivre. Tu vas exercer la justice, la bonté. Tu vas aimer les gens autour de toi. C'est à ça que je prends plaisir. Donc, on étudie la théologie, pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu. On veut le glorifier dans nos vies. Et c'est la première raison. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu, on cherche à vouloir lui faire plaisir. Et plus on comprend la parole de Dieu, plus on comprend le Seigneur à travers de sa parole, le Saint-Esprit applique à nos cœurs les vérités concernant Dieu et on est transformé. La théologie nous transforme pour qu'on puisse plaire à Dieu. Deuxièmement, ça va en lien avec, évidemment, j'ai nommé là, la grande raison, mais après ça, plus pratiquement. Parce qu'on veut obéir aux enseignements et aux commandements d'enseigner les disciples de Jésus. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre un peu plus la personne de Dieu. C'est pour ça qu'on étudie la théologie, parce que le Seigneur nous demande de former des disciples. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, on connaissait bien ce verset-là, mais je le répète encore. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, si à partir de ce passage-là, on fait de la théologie systématique parce qu'on veut obéir au commandement du Seigneur de former des disciples pour bien recevoir l'enseignement des Écritures puis pour bien enseigner un disciple de Jésus-Christ, j'ai besoin d'être informé sur ce que la Bible dit sur certains sujets. Je ne peux pas dire simplement, quoique ce n'est pas mauvais de dire ça, mais c'est rare qu'on va simplement dire, si tu veux connaître Dieu, ouvre ta Bible puis lis. Quelqu'un vient te voir et dit, toi tu es chrétien, comment tu fais pour devenir chrétien? Comment ça s'est passé dans ta vie? Ouvre ta Bible puis lis. C'est ça que tu vas dire? Tu vas expliquer qu'est-ce que le Seigneur a fait. Tu vas expliquer comment le Seigneur a répondu à certaines questions dans ta vie, comment tu peux avoir le pardon des péchés, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi, comment tu peux placer ta foi en lui. Tu fais de la théologie, on est en train d'enseigner, le Seigneur ne nous demande pas de dire, dites aux gens de lire leur Bible. Non, il nous demande de les enseigner. Les gens ont besoin de comprendre, ils ont des questions, ils ont besoin de comprendre avec le langage qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Nous, on est là pour enseigner, partager l'Évangile, former des disciples. Et qu'on peut dire, ouvre ta Bible, puis lis. C'est important de leur dire ça aussi. Mais on ne dit pas simplement ça. On a besoin de recevoir l'enseignement. Fait qu'on peut aussi tirer profit du travail de recherche que certains auteurs et théologiens ont fait. Donc, pour ma vie personnelle, puis lorsque quelqu'un vient avec moi pour me voir avec une question, puis que je suis en train de former un disciple, puis il y a un disciple qui a une question, mais des fois, je ne vais pas prendre nécessairement pour répondre à la question, lire ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse, puis dire, bon, je vais essayer de trouver tout ce que Dieu dit sur le sujet. Des fois, on va consulter un théologien qui a déjà fait un peu de travail sur le sujet pour dire, OK, oui, ça, je pense, ça fait du sens, je peux donner cette réponse-là. Donc, Dieu a placé dans l'Église des pasteurs, des docteurs, des gens pour enseigner, et puis pas juste dans l'Église locale, mais dans l'Église dans son ensemble, des docteurs qui sont capables de répondre à certains sujets, puis on peut retirer de leur enseignement. Puis à travers le bon travail de théologie, on peut offrir des résumés, une réponse sur des questions. La confession de foi de notre Église. Quand vous faites le cours de membre à l'Église de l'Espoir, on vous présente la confession de foi. Puis disponible sur notre site web aussi, vous pouvez aller lire notre confession de foi, puis on prend le temps de la lire régulièrement ensemble, souvent dans les réunions de membres. Mais notre confession de foi, c'est en quelque sorte le fondement de la foi de nos croyances ici à l'Église de l'Espoir. Lorsque vous lisez un résumé de doctrine comme ça, c'est de la confession de foi, c'est un résumé de doctrine de qu'est-ce que nous croyons. Vous êtes en train de lire de la théologie systématique et on est en train d'enseigner en étant basé sur ce que nous croyons ici à l'Église de l'Espoir. On croit que l'Écriture est inspirée de Dieu et donc est l'autorité infaillible, sans erreur, sur laquelle on peut se fier pour la vie chrétienne et la foi et la vie chrétienne et la vie dans tous ses aspects. Si on croit ça, bien, ça a un impact dans la vie de l'Église. On va enseigner les Écritures. Et donc, notre confession de foi, lorsqu'on vous passe à travers notre confession de foi, vous êtes en train de lire un résumé de doctrine. Et c'est important de lorsque les gens arrivent à l'Église de l'Espoir, ou même régulièrement les croyants qui sont membres, d'aller relire ça pour rafraîchir à notre mémoire. Qu'est-ce qu'on croit ensemble? C'est quoi notre base commune? Et on se sert de ça pour enseigner puis former des disciples. Une troisième raison pourquoi on va faire de la théologie, c'est pour surmonter les mensonges de nos cœurs. La nature pécheresse, elle continue d'exercer son influence sur nous. Elle continue d'influencer notre façon de penser. Et pas seulement notre nature pécheresse, mais aussi dans notre culture. Il y a des idées qui sont véhiculées. On en vient des fois sans le savoir nécessairement, on est influencé par notre culture. Puis on a des idées qu'on croit que si je te pose la question sur un sujet en particulier, tu vas croire ça, puis c'est bien évident pour toi à cause de justement l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais des fois, on est confronté à des idées dans notre culture qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et on a besoin de surmonter les mensonges de notre cœur et qui nous influencent. Et la théologie, pourquoi on étudie la théologie? Parce qu'on veut surmonter le mensonge, on veut croire ce que Dieu dit sur le sujet. Donc, une saine doctrine qui vient des Écritures nous aide à surmonter les mensonges pour les remplacer par la vérité. Et lorsqu'on étudie la doctrine, la théologie qui vient des Écritures, on est en train de faire ce travail-là. Seigneur, forme ma pensée conforme à la tienne. Pas conforme au contexte, au milieu dans lequel je suis en train de vivre, mais conforme à toi. Quatrième raison pourquoi on doit étudier la théologie, c'est pour, entre autres, réfuter les contradicteurs. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jésus nous demande de demeurer dans sa parole. Il ne veut pas qu'on s'écarte de sa parole. Si on veut rester ferme, bien, la parole de Dieu nous montre que dans l'Église, il peut y avoir des faux docteurs, des personnes qui n'enseignent pas des choses selon les Écritures. Comment je vais être prêt à répondre à quelqu'un qui n'enseigne pas quelque chose selon les Écritures? Je dois être équipé pour ça. Je dois avoir une saine doctrine. Je vais être équipé avec la saine doctrine et on veut demeurer dans la parole. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Il dit, quand il viendra un temps où car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est une mise en garde que Paul donne à son Église, à Timothée, entre autres. Et on ne veut pas tomber dans ce piège-là. On veut rester ferme dans la saine doctrine. On veut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et donc, on a fait de la théologie pour être ferme dans la parole. Finalement, on fait de la théologie pour nous aider dans notre sanctification. Je l'ai déjà mentionné un peu. Mais Wayne Grudem dit, le plus nous connaissons Dieu, sa parole et sa relation avec la création et l'humanité, le plus nous allons lui faire confiance, le plus nous allons l'adorer et nous serons plus prêts à lui obéir. Donc, pour notre sanctification, quand je suis nourri des Écritures, nourri d'une saine doctrine, ça a un impact dans ma vie, ça me transforme à l'image de Jésus-Christ pour grandir et vivre à la gloire de Dieu. Et la saine doctrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit notre piété. On a parlé de la session dernière dans ma classe ici, là, des affections spirituelles, des disciplines spirituelles. Mais ces disciplines spirituelles-là, puis ma vie spirituelle est nourrie par la saine doctrine. Dans 1 Timothée 6, 3, Paul parle de la saine doctrine comme la doctrine qui est selon la piété. Une doctrine qui est selon la piété. Dans Tite 1, il dit qu'il existe la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, si je veux mener une vie pieuse, c'est-à-dire une vie agréable à Dieu, en relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, une vie qui lui est agréable, ça doit être basé sur la vérité, sur une saine doctrine, sur une bonne théologie. C'est pour ça qu'on fait de la théologie ensemble. Finalement, il y a une dernière question à répondre, c'est comment on fait ça, étudier de la théologie systématique? On répondit à la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi on doit l'étudier, maintenant on répond à comment ça se fait? Premièrement, je pense que ça commence dans la prière. On doit étudier la théologie dans la prière. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de vous partager le psaume 119, qui est toute une prière dans le psaume 119 sur le désir d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à être instruit par sa parole. Le psaume 119, au verset 18, ça dit, le psalmiste dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Une prière à Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre ta parole. Je veux répondre à des questions que j'ai dans mon cœur qui peut-être me troublent un peu. Je cherche à comprendre des choses. Il y a souvent des questions qui dans la vie, arrivent. Par exemple, on vit une épreuve. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu permets que je sois en train de vivre cette épreuve-là? On va essayer de comprendre avec les Écritures ce que le Seigneur permet dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir une réponse. Mais souvent, on peut essayer de mieux comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Et on dépend pleinement du Seigneur pour le connaître, pour l'aimer et vivre selon sa parole. Puis on a besoin de nous tourner vers lui, de lui demander de nous donner l'intelligence, de nous donner la sagesse qui est conforme aux Écritures. La connaissance puis la sagesse qui conduit à l'obéissance. Donc, la théologie commence à genoux. Parle-moi, Seigneur. Informe-moi selon ta parole. Deuxièmement, on doit étudier la théologie systématique avec humilité. C'est facile lorsqu'on apprend à connaître des choses sur Dieu ou on est plus au courant des grands débats théologiques de tomber dans un orgueil qui enfle plutôt que l'amour qui édifie. Et on est enflé d'orgueil, puis on peut être, moi je connais des choses. Le Seigneur nous met en garde contre ça. 1 Pierre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors même quand on fait de la théologie, lorsqu'on discute de théologie ensemble, on doit faire ça avec humilité. On doit être prompt à écouter plutôt qu'à parler, dans Jacques 1, 19 et 20, entre autres. Aussi, l'humilité nous pousse à agir avec douceur. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Dans Jacques 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Tu connais la théologie? Tu es un bon théologien? Qu'il montre ses œuvres par une conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. L'humilité m'amène, lorsque je fais de la théologie avec humilité, ça ne m'amène pas à vouloir avoir raison. Ça m'amène à vouloir comprendre réellement ce que Dieu dit. Puis des fois, je peux avoir un frère, une sœur qui ont étudié un peu plus une question qui peuvent m'aider à comprendre quelque chose. Avoir l'humilité de même, si tu as un doctorat en théologie, d'avoir un frère, une sœur qui partage quelque chose puis dit « Wow, tu m'édifies, tu m'informes encore plus ma théologie parce que tu vis, parce que tu as vécu quelque chose dans ta relation avec Dieu qui t'a aidé à découvrir quelque chose sur Dieu. » Que le Seigneur nous garde lorsqu'on avance dans notre connaissance de Dieu, dans notre vie chrétienne, qu'on puisse demeurer humble. Que même ceux qui sont, on va le dire comme ça, moins éduqués parmi nous peuvent nous apprendre des fois des choses à ceux qui sont un peu plus éduqués. On est là pour semer la paix. On est là pour être en relation les uns avec les autres, chercher à grandir ensemble. Donc, troisièmement, une fois qu'on l'a fait dans la prière, on cherche à développer l'humilité dans ce travail-là. On veut le faire avec une raison saine. Lorsqu'on étudie la théologie, on utilise notre intelligence, on utilise la raison. Le professeur John Frame affirme que lorsque nous faisons de la théologie, nous sommes libres d'utiliser notre capacité de réfléchir afin de tirer des conclusions à partir des passages des Écritures. pourvu que ces déductions ne contredisent pas l'enseignement clair des autres passages des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu es en train d'étudier la Bible, puis là, tu as tiré tes conclusions, puis tu as trouvé ta réponse à ta question, il y a quelque chose que tu dois faire avant de dire « j'ai ma réponse ». Oui, c'est bien de trouver une réponse, mais est-ce que y a-t-il des versets des Écritures qui contrediraient la réponse que tu es en train de donner? Si tu fais ça, tu n'as pas utilisé, tu n'as pas fait le travail comme il faut. Et lorsqu'on fait ce travail-là, on a besoin de valider notre formulation. Des fois, dans les travaux de théologie, on écrit. Puis j'avais besoin d'écrire puis de formuler une théologie. Puis il fallait, là, c'était un défi pour moi d'être précis. Parce qu'on peut dire une idée large, mais ça peut impliquer toutes sortes de choses. Mais là, essaye d'être précis. Précise qu'est-ce que tu es en train de dire pour pas que ça soit interprété de d'autres façons. Pour pas que des passages d'Écriture viennent contredire ta formulation. Donc, on est en train d'essayer de préciser. Mais c'était tout un défi pour moi, celle-là encore aujourd'hui, c'est-à-dire de clarifier le plus possible pour que ce soit conforme aux Écritures. Donc, on a besoin de faire ce travail-là. On a besoin d'étudier la théologie avec l'aide des autres chrétiens. On n'est pas tout seul là-dedans. Ce n'est pas une tâche dans laquelle on fait ça juste individuellement. Oui, on s'isole un peu. Des fois, on va étudier une question, on va étudier les Écritures sur une question. Mais on a besoin d'en parler avec tes frères et sœurs. « Hey, j'ai étudié tel sujet, puis je suis arrivé à cette conclusion-là. Qu'est-ce que tu en penses? »« Ah, c'est bon, je pense que tu es dans la bonne direction. » Puis là, il te pose une question, tu dis « Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que je pourrais préciser encore plus ce que je suis en train de dire. » Ou « Ah, mais je connais ce verset-là dans les Écritures. Je ne suis pas sûr que ta formulation elle touche ce verset-là. Peut-être que tu pourrais l'inclure là-dedans. » Et donc, on travaille ensemble à le faire. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On fait de la théologie ensemble, mais encore plus des fois dans les discussions, où c'est plus ouvert à la discussion, on peut ensemble étudier la théologie puis le formuler ensemble. On ne se fait pas dans l'isolement. On étudie la théologie en cherchant, ça c'est vraiment dans la méthode, tous les passages importants des Écritures sur un sujet en particulier. Donc, quand on fait de la théologie, on essaye de trouver nos réponses, on veut considérer tous les passages d'Écriture qui sont importants, qui sont liés au sujet. Fait que ça peut se faire avec une concordance. Si je veux étudier la paix avec Dieu, c'est quoi ça veut dire d'avoir la paix avec Dieu? Je vais prendre une concordance peut-être, ou même un logiciel maintenant, avec les logiciels qu'on a sur nos ordinateurs. Tape le mot « paix », trouve tous les versets qui parlent de la paix. Là, il peut avoir la paix entre les hommes. Là, il y a d'autres versets qui parlent de la paix avec Dieu. Et donc là, je vais spécifier les versets que je suis en train de vouloir étudier parce que moi, je cherche, c'est quoi ça veut dire d'avoir la paix avec Dieu. Et lorsque je vais lire tous les passages qui sont liés à ça. Donc, j'ai besoin de considérer. Fait que je vais prendre les outils qu'il faut pour considérer tous les passages. Puis, il faut comprendre aussi les passages dans leur contexte. Parce que des fois, on peut prendre un passage, « Hey, j'ai trouvé un passage sur la paix avec Dieu, mais là, j'oublie tout le contexte dans lequel il était, puis là, je suis en train de dire des choses que c'est pas ça que le passage dit. » Fait qu'on étudie le passage dans son contexte. C'est tout un travail de faire ça, mais il faut bien le faire. Alors, on prend des notes sur ce que les passages disent. À la fin, on arrive avec une réponse. On formule un résumé de l'enseignement biblique sur le sujet en question, puis on valide que notre formulation ne contredit pas les Écritures. Fait que ça, c'est un peu la méthode de comment on le fait concrètement. Et finalement, on veut étudier la théologie systématique avec réjouissance, avec adoration. Ce n'est pas juste théorique, comme je l'ai dit, ça transforme nos cœurs. En étant réconciliés avec Dieu maintenant, on se réjouit de pouvoir le connaître, de pouvoir mieux le servir, de pouvoir lui obéir. Puis connaître davantage la grandeur et la bonté de Dieu envers nous, lorsqu'on apprend à le connaître réellement, qui il est, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, on grandit dans notre adoration pour lui. Et que la théologie systématique doit nous conduire à l'adoration. Elle doit nous conduire à mettre en pratique. Dans Romains 11, à la fin de Romains 11, Paul vient de parler de toute une question théologique. Le salut d'Israël, après ça, ceux qui... Là, dans Romains 11, il parle des vases d'argile, des vases d'un usage vil, les vases préparés pour la gloire. Puis là, il y a toute une grande question théologique qui s'est développé, que là, il essayait de répondre à ça, puis il termine en disant « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Termine une grande question théologique avec quoi? L'adoration. En bout de ligne, je ne comprends pas tout sur Dieu. Parce que Dieu est tellement grand. Mais ce que j'ai appris, ça me montre comment Dieu est profond, comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux. Et je veux l'adorer pour ça. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On veut adorer notre Dieu ce matin. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour... Parce que c'est possible de te connaître. C'est possible de faire de la théologie, de chercher à te connaître puis te comprendre davantage parce que tu t'es révélé à nous. Si tu ne t'étais pas révélé à nous, Seigneur, on serait encore perdu dans nos péchés puis on aurait de la difficulté à chercher à te comprendre, à te connaître, mais tu as voulu te faire connaître. Et c'est à cela que tu prends plaisir, Seigneur, qu'on puisse avoir la sagesse, l'intelligence de te connaître pour qu'on puisse agir avec fidélité selon ta parole, qu'on puisse rester ferme dans tes voies, ferme dans ta parole, Seigneur. Ne nous permets pas, Seigneur, d'être enflés d'orgueil à cause de nos connaissances sur toi. Garde nos cœurs, qu'on puisse le faire avec une attitude d'humilité, qu'on puisse le faire avec un désir motivé par ton esprit, avec un désir de te connaître pour marcher pour toi. Un désir de vouloir fléchir le genou devant toi, de reconnaître ta sainteté, ta majesté et te donner toute la gloire parce que tu es un Dieu merveilleux qui est digne qu'on puisse le connaître et le glorifier. Seigneur, viens bénir le temps qu'on va avoir ensemble dans la célébration. Encore une fois, touche nos cœurs à travers les chants, qu'on puisse te célébrer avec des cœurs entiers, des cœurs qui sont touchés par toi, touchés par ton amour. Et viens encore une fois nous toucher par ta parole pour qu'on puisse être des gens qui vivent pour toi, qui partagent ton évangile, qui cherchent à voir des âmes venir à toi, grandir dans ta connaissance. Parce qu'on veut ta gloire, Seigneur, au milieu de ton peuple. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.